Écrit ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2 et le quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour Marie-Ève Le Forestier.
Bonjour.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit aujourd'hui Marie-Ève Le Forestier pour son livre « Pauline Boyer, pérégrination d'un consul de France au XIXe siècle », paru aux éditions Maisonneuve La Rose, devenue édition Hémisphère. Cette parution est en date de février 2025 et la particularité, c'est que c'est un ouvrage que vous avez coécrit avec votre sœur Hélène Guinaud.
Jacqueline Guinaud.
Oh, Jacqueline Guinaud, excusez-moi, je l'ai rebaptisée en direct, pardon. Qui elle-même a aussi des publications en son nom propre. Alors, Marie-Ève, vous êtes historienne. Vous faites partie de la Société des historiens du Pays de Ré, entre autres, hein, avec lequel vous avez plusieurs publications, notamment sur l'histoire de Pornic, mais pas que. Et vous avez aussi publié, avant cet ouvrage, avant ce livre, Pauline Boyer, vous avez publié un autre ouvrage, toujours avec votre sœur, Jacqueline Guinaud, qui s'appelle Eugénie Liboyer, La voix des femmes. Toujours aux éditions Maisonneuve, La Rose et Hémisphère. Et ce livre date de 21. J'en parle ici parce qu'il y a un lien, vous le verrez, vous l'entendrez bien évidemment. On voit assez vite, me semble-t-il, le lien entre l'historienne que vous êtes et l'écriture. Le contenu de ce livre, Pauline Boyer, pérégrination d'un consul de France au XIXe siècle, est très particulier, on va en échanger avec vous, puisqu'en fait, il s'agit d'un de vos ancêtres. Donc, qu'est-ce qui amène l'historienne que vous êtes et la sociologue qui est votre sœur, cette envie d'écrire cette histoire ?
Eh bien, notre famille est une famille riche en personnages intéressants et nous avons souvent entendu parler d'eux dans notre famille, en particulier notre mère qui est de son nom de jeune fille Niboyer, donc vous avez tout de suite le lien avec les personnes sur lesquelles j'ai écrit. Maman nous parlait de notre aïeule féministe, Eugénie Niboyer. Donc ça nous a amené à nous intéresser à sa vie, à son œuvre, et on s'est aperçu que c'était une femme de caractère et une femme très connue dans le monde du féminisme, puisqu'elle a été une des premières féministes françaises publiant des journaux dès les années 1830, ce qui est remarquable. Et au travers de la vie de la mère, nous avons découvert, puisqu'elle élève seule son fils, la vie de ce garçon, jeune garçon d'abord, puis adulte, Pauline Niboyer, qui devient consul de France. Un peu grâce à maman au départ.
Merci beaucoup.
Alors, donc dans ce récit, on apprend qu'après des études de droit, Pauline Niboyer, l'aïeule de Marie-Ève Le Forestier, opte pour une carrière consulaire. Nous naviguons avec lui au gré de ses nominations aux quatre coins du monde. Son journal de bord décrit minutieusement sa vie sur les navires, lors des escales qui peuvent durer plusieurs semaines et durant ses différentes affectations. Les documents, photos d'époque, cartes géographiques, courriers et les précisions des contextes historiques rendent le récit très vivant. Sous le nom de Fortunio, il publie des romans, du théâtre, des récits de voyage. Il est aussi journaliste.
Alors effectivement, le résumé est extrêmement alléchant et c'est vrai que ce livre est passionnant. Fait rêver, hein, À l'heure où nous disions hors antenne tout à l'heure avec Marie-Ève que nos souvenirs maintenant sont plutôt visuels, là en fait ce sont des souvenirs qui sont liés à l'écriture. Peut-être, Marie-Ève, tout à l'heure vous disiez donc fils d'une féministe, d'une avant-gardiste. Quelle empreinte ça a pu laisser pour sur la carrière de votre aïeul là ? Qu'est-ce que vous
Certainement le goût de l'écriture, le goût de l'écriture puisque des langues aussi puisque sa mère là s'est beaucoup occupée de lui. Il a eu la chance d'être scolarisé aussi dans un bon lycée parisien. Il va beaucoup au théâtre, à l'opéra, avec sa mère aussi, ce que ne font pas toujours les jeunes garçonnets de 10-12 ans.
Un gros capital culturel, on dirait, en sociologie.
Un gros capital culturel. Je pense que ça a contribué à l'aider. Nous avons, nous, hérité, ma sœur et moi, mais aussi notre grand-père, de ce goût de l'écriture. Donc je pense qu'il y a une espèce de
transmission.
De transmission de ce goût de l'écriture sur plusieurs générations.
D'accord. Je crois que Marie-Ève, vous aviez, on a parlé bon, beaucoup, on parle quand même d'Eugénie Niboyer, même si on est autour du livre de Paulin Niboyer. Et je pense que vous aviez préparé une petite lecture justement d'un extrait d'écriture d'Eugénie Niboyer pour donner un peu l'idée de cette écriture très avant-gardiste pour le 19e siècle.
Alors non, ce n'est pas d'Eugénie.
Ah pardon,
que je
alors,
voulais vous
excusez-moi.
Parler. Je voulais vous lire un texte de Paulin,
oui,
mais qui a au moment très fort qu'il a partagé avec sa mère au moment de la révolution de février 48.
Okay.
Eugénie a créé un journal, La Voix des Femmes, et Paulin y participe. Il est en particulier chargé de la chronique mondaine et théâtrale.
D'accord.
La Voix des Femmes est un journal complet avec toutes les rubriques. Et le voilà qui dit, il a 23 ans. Franchement, ce n'est guère le cas de parler théâtre. Le théâtre aujourd'hui, c'est la rue, c'est le drame, la révolution. Nous sommes tous acteurs, hommes, femmes, riches et pauvres, grands et petits, peuples ou artistes, dans ce grand mouvement politique, mais surtout social, qui vient de changer la face de la France. Donc il résume ainsi tous les espoirs portés par la Révolution de 48, qui effectivement apporte la République, la liberté de presse, l'abolition de l'esclavage, et j'en passe.
Mais on voit, dans la suite du texte que sa mère, elle est toujours très militante, on dirait aujourd'hui, quoi, en fait. Hein. Alors que lui, au fil des années, quand même, ses convictions, c'est l'impression que j'ai eue en lisant, s'émoussent un petit peu, quoi. Parce qu'il peut-être pas, il est parti très loin, il est dans...
Tout à fait, mais Paulin aussi doit préserver son poste s'il veut rester diplomate. La diplomatie avec ses chefs fait partie aussi des nécessités, je dirais.
Oui, c'est ça, parce qu'on voit bien dans ses courriers qu'il prend, mais c'est son travail hein, de toute façon, qu'il défend avant tout les intérêts de la France. Quoi.
Oui, il est très...
Et des gouvernements en place.
Tout à fait patriote, tout à fait nationaliste, c'est sûr. Eugénie a dû s'exiler à plusieurs reprises, par exemple au moment du début du règne de Napoléon III. Donc Paulin a eu peur à ce moment-là de perdre son poste de consul. Et heureusement pour lui, il a pu le garder, mais c'était au détriment certainement de certaines de ses idées les plus avancées qu'il partageait avec sa mère.
Donc, effectivement, l'écriture est imprimée puisque Paulin Niboyer, en plus d'être consul, est écrivain. Et donc, il a donc porté là, ce que vous venez de nous lire. Mais il a aussi fait un travail de description magnifique de ses voyages. Et notamment, il y avait aussi... Alors, on va enchaîner un peu les lectures. Mais il y avait aussi une lecture à faire sur le départ d'un bateau du Havre, hein, puisque on s'imagine pas aujourd'hui, puisque d'un coup d'avion, on est au bout du monde. Mais c'était tout un rituel. Enfin, c'était vraiment un événement, quoi.
Alors, je vais reprendre un tout petit peu l'histoire de Paulin après 48.
Tout à fait.
En fait, à la fin de l'année, fin de la période révolutionnaire de juin 48, Eugénie sent que les choses tournent mal. Il y a effectivement les événements de juin 48 qui sont dramatiques, un bain de sang à Paris. Et elle demande à Lamartine, qui est un de ses grands amis, comme d'autres auteurs, elle connaît aussi très bien Victor Hugo, par exemple. Lamartine est alors ministre des Affaires étrangères et elle demande à Lamartine s'il ne peut trouver pas trouver un poste pour son fils à l'étranger. Et Lamartine envoie Paulin à Honolulu, aux îles Hawaï. Eugénie n'en imaginait pas un déplacement aussi lointain. Elle va peut-être le regretter un petit peu. Et il va partir pour Honolulu, mais le trajet est compliqué. Il s'embarque au Havre et je vous lis un petit passage concernant l'embarquement à bord d'un bateau en juillet 48 exactement. Les ports de mer sont comme les bureaux de diligence et les embarcadères de chemin de fer témoignent chaque jour d'émotions et d'adieux si tristes qu'ils semblent éternels. Quelques vapeurs qui chauffent, des flâneurs qui fument, des omnibus qui se croisent, des diligences qui partent au galop, des chariots qui s'ébranlent lourdement, des colis qu'on expédie ou qu'on reçoit, des grisettes qui échangent à leurs fenêtres de joyeux propos, des étudiants qui les recueillent, des amoureux qui rêvent de fidélité, des négociants qui parlent de sucre, des dévots qui achètent des indulgences, des courtisanes qui vendent leurs baisers. À son départ du Havre, le Staweli avait été chargé de nombreux ballots, cages à poules, bottes de foin, paquets de légumes, barils de lard salé, écuries à moutons, sacs de pommes de terre qui obstruaient le pont. Il ressemblait ainsi à un pauvre baudet revenant de la foire.
On va profiter de cette description pour passer le premier choix musical de Marie-Ève, Santiano, par les Marins d'Iroise.
Femme trois mâts, fin comme un oiseau.
Iseo, Iseo, Santiano. 18 de 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo, Iseo, Santiano. Signe de toujours droit devant. Nous irons.
Que là-bas l'argent coule à flot.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2. Nous sommes en compagnie de Marie-Ève Le Forestier pour son récit Paulin Niboyer, pérégrination d'un consul de France au XIXe siècle.
Alors après ce morceau à propos et puis cette très belle description que vous avez lue, effectivement, on pourrait presque dessiner en fait ce qui est décrit. Hein. Ce qui fait aussi de ce livre quelque chose d'haletant. Alors oui, c'est un récit historique, mais il y a de l'aventure, ça fait voyager. Et c'est aussi le témoin d'une époque.
À ce propos, le témoin d'époque, moi, c'était parce qu'il y a plusieurs moments dans le journal, il parle de... Alors, non seulement au Lulu, mais quand il est au Pérou, enfin, plusieurs endroits. Donc, je vais lire un extrait qui donne un petit peu l'idée. Alors, que je retrouve, voilà, c'est ça. L'Orient véritable s'est civilisé. La redingote s'est implantée à Constantinople. Mais... On en est encore au caftan multicolore. Et à plusieurs reprises, il parle donc de civilisation, d'apport de la civilisation, des lumières de la religion, puisqu'ils ont aussi, les colons ont aussi changé la religion des gens. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, mais c'était courant à l'époque, hein, je sais bien, mais ça montre un peu, malgré tout, les manifestations, les demandes d'abolition de l'esclavage, par exemple. En fait, sur place, les colons ont toujours cette supériorité quand même. C'est ce qu'il décrit, c'est ce qui ressort. Non ?
Oui, ben, il découvre, il est parti, il est sans parti pris au départ. Et donc, il découvre des mondes, c'est ainsi qu'il les intitule, les mondes nouveaux. Et son idée, à lui, est d'en découvrir le plus possible, peut-être quelquefois sous un regard critique, effectivement. Il arrive de France et il découvre... D'abord, il atterrit à Valparaiso. C'est pas à Santiago, mais c'est à Valparaiso. Mmh. Et là, il passe 2 mois à Valparaiso. Il découvre, effectivement, une société tout à fait hiérarchisée.
Excusez-moi de vous interrompre. Moi, c'est ça aussi qui m'a frappé dans le livre. C'est le temps entre deux, parce qu'il faut qu'il attende un bateau pour aller plus loin. Quoi.
Oui, parce que les bateaux, il n'y a pas de ligne directe pour aller à Honolulu. C'est pas une destination très fréquentée. Il y a peut-être eu 4 ou 5 expéditions, tout au plus, en partant par la Pérouse, mais il y a eu quelques autres expéditions ensuite. Mais il n'y a pas de liaison directe, donc il lui faut changer de bateau, attendre un autre bateau à Valparaiso. Finalement, c'est un bateau de la Marine nationale qui se présente et qui va l'emmener en longeant la côte américaine d'abord jusqu'en Équateur, puis à Tahiti. Et une fois à Tahiti, on le débarque sur le quai de Tahiti et il repasse encore 3 semaines à Tahiti à attendre un bateau hypothétique qu'il ne trouve pas. Et il finit en désespoir de cause par s'embarquer à bord d'un baleinier, mais un baleinier chassant la baleine, qui sont juste en escale technique à Tahiti, disant si vous voulez, au passage, on vous déposera à Honolulu. Et voilà Paulin parti dans une cabine très très étroite, avec une nourriture très sommaire dont il se plaint. Chasser la baleine, tout simplement, avec tout ce que ça suppose, de mise à l'eau, d'un canot, les harpons, tout l'équipement et tout le matériel que déploient, les efforts que déploient les marins pour ramener la baleine à bord.
Et pourtant, il est représentant de l'État français.
Mais bon, il est à bord de ce bateau. Et ouais. Finalement, il arrive quand même à son poste au bout de 8 mois et demi de voyage non-stop. Et c'était un garçon qui n'avait jamais quitté le pavé de Paris ou du moins les routes pavées ou mal pavées des Françaises ou Allemandes. C'était le maximum de ce qu'il avait fait comme voyage. Il n'est pas du tout marin au départ.
Donc une formation sur le tas, on pourrait dire, bien loin de la formation de nos diplomates actuels, si je puis me permettre, qui est liée aussi à l'époque, en fait. Alors, c'est vrai que... Alors, c'est passionnant de vous écouter, Marie-Ève. Hein, je regardais Martine. C'est vraiment haletant. Je disais ça, en fait. Il y a vraiment de l'aventure. Alors, pour lui, ça a été une aventure qu'il décrit. Mais effectivement, cette lecture, elle nous emmène, elle nous apprend aussi des choses, en fait. Hein, et quand vous lisez, ça nous emporte un peu, je trouve. Sur ce livre aussi, alors peut-être un peu cette question récurrente, hein, quand quelqu'un écrit sur ses auteurs, vous nous avez dit ça donne un peu le goût de l'écriture, mais il y avait aussi cette question, est-ce que ça ne met pas une certaine pression quand on est d'une telle lignée quand même, hein, qui érudite, très impliquée dans la vie politique française, avant-gardiste, alors je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais en tout cas, comment on gère cet héritage ?
Alors, pour moi, c'est relativement facile dans la mesure où mon père a suivi cette voie. D'accord. Lui aussi. Et j'ai vécu une partie de mon enfance en Afrique occidentale où mon père était en poste diplomatique. D'accord. Ce qui fait que je me suis facilement appropriée la vie de Paulin puisque je savais un petit peu de quoi je parlais. Cependant, rien à voir effectivement entre la vie d'un fonctionnaire diplomate français dans les années 60 en Afrique et celle de Paulin en 1848 à Honolulu. À Honolulu, c'est encore une royauté à l'époque. C'est un des seuls espaces, avec encore la Nouvelle-Calédonie et quelques îles, qui n'ont pas trouvé preneur, si je puis dire. Il y a une rivalité très forte entre les Américains, les Anglais et les Français pour la possession de cette partie du monde. N'y sont présents pour l'instant que des missionnaires, quelques aventuriers qui ont osé s'installer dans ces îles et différentes puissances veulent s'imposer. Et le but de l'État français en ayant un consulat à Honolulu, c'est non seulement de rendre service aux bateaux français qui naviguent dans ces eaux-là, mais surtout d'assurer une présence française. Ils conquerront quelques années plus tard la Nouvelle-Calédonie. Et ce qui est amusant, c'est que le bateau qu'utilise Paulin pour le bateau militaire que Paulin a utilisé pour aller à Tahiti continuait son voyage jusqu'en Nouvelle-Calédonie et c'est les débuts en fait de la conquête par la France de la Nouvelle-Calédonie. Donc on est vraiment dans un contexte diplomatique aussi très intéressant. Mmh. Et Paulin est plongé tout d'un coup dans un conflit entre le roi local, le roi de Tahiti, Kamehameha III, et le gouvernement français. Je n'en dévoilerai peut-être pas plus, parce que je ne vais pas vous raconter tout ce qui se passe dans le livre. Mais il a affaire à des affrontements sévères qui feront que le consulat français va carrément abattre le drapeau, fermer, et que Paulin va repartir assez vite, chargé d'une nouvelle mission, qui est de rentrer le plus vite possible en France pour apporter les nouvelles de Honolulu. Alors, pourquoi est-ce qu'on lui demande à lui de faire cela ? Parce que le bateau amiral, lui, va mettre de nouveau 8 mois pour rentrer. Et Paulin a un moyen plus commode de regagner la France. C'est le début de la marine à vapeur. Et il peut ainsi prendre le fameux bateau de guerre qui était à Honolulu à ce moment-là, aller à San Francisco et de là trouver un vapeur qui, descendant le long de la côte américaine, va l'amener à Panama.
Ça, c'est impressionnant, là, ce qui vit à Panama.
Alors, à Panama, eh bien, il n'y a pas de canal, bien sûr. Il y a l'isthme à traverser et la cordillère des Andes. Donc, il commence par acheter un cheval, puis trouver des locaux, des Indiens qui ont des pirogues, qui descendent la rivière Chagre, qui les amènent de l'autre côté sur l'océan Atlantique. Donc, c'est la traversée de l'isthme, le retour par l'isthme, qui lui fait économiser pratiquement 4 mois de voyage.
C'est incroyable. Il n'y
a plus à faire le tour du Cap Horn. Oui. On peut passer par cet itinéraire. Cet itinéraire, d'ailleurs, est de plus en plus emprunté par les gens qui veulent se rendre à cette époque-là en Californie. C'est beaucoup plus commode de passer par l'isthme de Panama, dans l'autre sens, venant d'Europe, pour aller chercher l'or de Californie.
C'est sportif quand même.
C'est sportif, oui, ouais. C'est sportif. Et il y attrape le choléra. Donc,
quelle vie, c'est ce qu'on dit, c'est passionnant. Et puis, surtout à une époque, je crois, on peut le dire sans trop se tromper, où la question de l'histoire est quand même un peu battue en brèche. Il était à un moment donné question de peut-être pas trop faire d'histoire à l'école, par exemple. Donc, il y a vraiment quelque chose, on voit bien dans ce que vous rapportez de manière passionnée. Ça éclaire aussi notre présent, quand vous parlez de la Nouvelle-Calédonie et du conflit qu'on connaît actuellement et qui dure depuis fort de temps. En tout cas, c'est vraiment une invitation à lire votre livre magnifique. Peut-être, toujours dans nos lectures, on a toujours un peu de partialité. Et donc, l'idée, c'est aussi de vous laisser aussi l'espace, parce que est-ce que vous, sur ce livre, il y a vraiment des choses que vous avez envie de partager avec les auditeurs encore plus que ce qu'on vient de faire à travers les questions, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dont vous avez envie de...
Ce que je voudrais partager, c'est que Paulin a eu un succès énorme avec son livre. Quand il revient d'Honolulu, il publie un livre qui s'appelle « Les mondes nouveaux ». Et ce livre a eu énormément de succès. Il a été réédité. Et il y décrit justement ces mondes qu'en France, on ne connaît pas. On découvre la civilisation de la pirogue, de populations qui n'ont pas du tout les mêmes modes de vie que les nôtres. Il parle par exemple des tabous. Pour nous, le mot tabou, c'est un mot du langage, mais ça a un sens. Mais là-bas, le tabou, c'est effectivement un sens religieux. Très important, il y a des dieux dans la nature et il ne faut pas enfreindre les règles vis-à-vis de ces dieux de la nature. Donc il nous raconte aussi bien une épopée dans laquelle il y a des femmes qui montent à cheval avec des corisses, des algues sur les cheveux et qui font une fois par mois une grande manifestation à cheval de femmes que des balades en pirogue ou un bain de Paulin qui admire la nature autour de lui. Il connaît aussi des épisodes assez étonnants lorsqu'il fait escale dans une île, je ne sais plus laquelle, et il rencontre un prêtre qu'il lui propose de traverser l'île et d'aller tout simplement découvrir la nature. Il découvre un volcan, il se balade autour du volcan et il se rafraîchit dans l'eau des cascades. Oui. Donc c'est des voyages ailleurs. Oui. Il n'y a pas la télévision. Ça paraît idiot de dire ça, mais les gens ne peuvent pas imaginer ce monde extérieur. Oui.
On va être obligé, on vous écouterait pendant des heures. Oui. Là, franchement, on va être obligé d'arrêter parce que ça y est, le temps imparti est écoulé, comme on dit. Donc, pour finir, on va écouter une valse de Johann Strauss parce que Paulin aimait danser. Yeah.
Ah, c'est pas le même contexte. Il aime danser lorsqu'il est en poste en Europe, à Leipzig
particulier. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, j'ai pas précisé, mais bon, oui. La valse de l'empereur.